Bonjour et welcome, vous écoutez l'Amérique dans tous ses états, un podcast hebdomadaire consacré à l'actualité des États-Unis, enregistré et diffusé depuis New York au micro Daniel Hoffman et avec moi, mon collègue Richard Etu, correspondant de la presse à New York et animateur du blog sur lequel ce podcast est hébergé. Bonjour Richard.
Bonjour Daniel.
Cette semaine, on va parler d'un documentaire choc sur Michael Jackson, de la question de l'antisémitisme qui agite le Parti démocrate, et puis de la peine de prison de Paul Manafort. On répondra aussi à l'une des questions que vous nous avez posées cette semaine, l'Amérique dans tous ses états, épisode 7. C'est parti. La chaîne HBO a donc diffusé la semaine dernière un long documentaire, plus de 4 heures, qui relance les accusations d'agression sexuelle et de pédophilie contre Michael Jackson. Dans Leaving Neverland, c'est le titre, Dan Reed donne la parole à deux victimes présumées de l'icône de la pop disparue il y a près de 10 ans. Il y a d'abord James Safechuck, qui a rencontré son idole à l'âge de 9 ans sur le tournage d'une pub pour Pepsi à la fin des années 80, et puis Wade Robson, qui a lui remporté à 5 ans un concours de danse en Australie lors d'une tournée mondiale de Michael Jackson et qui a été repéré par la star. Les deux hommes racontent de manière assez similaire comment le chanteur les aurait d'abord séduits, eux et leur famille, en nouant une relation intime et en leur offrant des cadeaux, des vacances à l'étranger et même une participation à certains de ses concerts, et puis comment cette relation a vite évolué vers quelque chose d'extrêmement malsain quand Michael Jackson a commencé à se livrer à des attouchements sexuels et à des viols sur les enfants. Alors c'est décrit de manière très brutale, très graphique, il y a de nombreuses scènes qui se déroulent notamment à Neverland, ce ranch californien dont Michael Jackson était le propriétaire et où il recevait de nombreux enfants. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'avant même sa diffusion, ce documentaire a créé une polémique intense aux États-Unis. La communauté des fans de Michael Jackson s'en est pris à Safechuck et Robson, les accusant de mensonges, de vouloir salir la réputation de l'inventeur du moonwalk. Et puis la famille du chanteur a, elle, attaqué HBO en demandant 100 millions de dollars de dommages et intérêts. Est-ce que tu penses, Richard, que ce documentaire peut écorner l'image de Michael Jackson?
C'est ce qu'on va voir certainement au cours des prochains mois, au cours des prochaines années. Ce qui est intéressant, c'est quels seront les impacts de ce documentaire sur l'héritage culturel de Michael Jackson, mais aussi sur sa succession. On sait que depuis 2009, depuis sa mort, sa succession a encaissé plus de 2 milliards de dollars, alors que Michael Jackson était ni plus ni moins ruiné au moment de sa mort. Et c'est pour ça qu'il tentait un retour sur scène. Et parmi les manifestations culturelles qu'on peut continuer à voir ou à entendre concernant Michael Jackson, il y a ce spectacle du Cirque du Soleil à Las Vegas et il y a une comédie musicale qu'on prépare pour Broadway. Il sera donc intéressant de voir quelle sera la suite de ces spectacles ou de ces productions. Pour le moment, à Las Vegas, les foules continuent d'affluer pour voir ce spectacle-là, même si une pétition circule en ligne pour demander l'annulation du spectacle. Sur Broadway, ben évidemment, c'est seulement en 2020 qu'on va voir la situation, mais il est possible qu'à New York, des groupes de pression manifestent et que ce spectacle-là ait une vie plus difficile que celui du Cirque du Soleil à Las Vegas. Pour le moment, on constate que des chaînes de radio, notamment au Québec, ont cessé de diffuser la musique de Michael Jackson, comme l'a fait la BBC au Royaume-Uni. On sait que le créateur des Simpsons a retiré la fameuse épisode mettant en scène Michael Jackson. C'est des choses qui peuvent porter atteinte à l'image de Michael Jackson. Est-ce que c'est la fin de cette histoire-là? C'est pas évident. On sait qu'il y a chez ses fans des fans endurcis. Il y en a pour qui cette controverse-là ne change pas leur relation face à la musique, mais d'autres personnes qui, disons, ne peuvent pas accepter d'enrichir une succession qui a été créée par un pédophile et peut-être un pédophile en série.
Alors on change complètement de sujet. Voici l'extrait d'une déclaration. Les démocrates sont devenus un parti anti-Israël. Ils sont devenus un parti anti-juif et c'est regrettable. Est-ce que d'abord tu sais, Richard, qui est l'auteur de cette déclaration?
Je dirais peut-être que c'est, Donald Trump.
C'est gagné, le président américain réagissait en fait au débat qui divise le parti démocrate, débat extrêmement sérieux autour de la question de l'antisémitisme. La députée du Minnesota, Ilhan Omar, dont on a déjà parlé ici dans ce podcast, est au centre de toutes les attentions puisqu'elle a été épinglée à plusieurs reprises pour des propos jugés antisémites par certains. Les derniers en date sont des déclarations où Omar estime que les lobbies pro-israéliens au Congrès poussent à faire allégeance à un pays étranger, ce qui a provoqué un tollé dans la classe politique. D'un côté, ceux qui accusent Omar de manipuler des clichés antisémites sur le manque de loyauté supposée des Juifs, de l'autre, ceux qui estiment qu'il s'agit d'une critique légitime du gouvernement israélien et de la politique étrangère américaine. Ça a conduit Nancy Pelosi, la chef des démocrates à la Chambre des représentants, à faire voter une résolution qui était censée mettre les choses au clair. Au départ, ça devait être un texte qui condamnait exclusivement l'antisémitisme. Et puis finalement, pour ne pas donner le sentiment de cibler Omar qui est musulmane, d'autres formes de racisme ont été ajoutées, racisme anti-musulman, haine contre les immigrés, suprémacisme blanc. La résolution a été approuvée par une majorité écrasante à la Chambre, seule une vingtaine de républicains ont voté contre. Cependant, il s'est trouvé de nombreux détracteurs qui ont jugé que c'était un texte un peu fourre-tout, édulcoré, qui évitait de s'attaquer au fond du problème. Alors c'est peut-être ironique que ce soit Donald Trump qui se soit emparé du sujet, lui qui s'est montré incapable de condamner clairement la marche néo-nazie de Charlottesville en 2017. Mais si on va un peu au-delà, on voit bien qu'il y a cette fracture chez les démocrates autour de la question d'Israël et de l'antisémitisme, une fracture qui est aussi bien idéologique que générationnelle. Est-ce qu'il y a un risque pour toi, Richard, que le parti se déchire sur ce sujet en vue de la présidentielle de 2020 ?
Il va essayer certainement d'éviter d'autres fissures comme celles qu'on a vues la semaine passée, mais ça semble quand même inévitable dans la mesure où il y a une portion importante de la coalition du Parti démocrate qui est moins tolérante face à Israël et à son traitement des Palestiniens. Et on le constate notamment au sein des minorités qui forment cette coalition. Si on pose les questions aux Afro-Américains, par exemple, êtes-vous plus sympathique à la cause des Palestiniens qu'à la cause des Israéliens? Ben, la réponse est très différente de ce que ça peut être pour les Blancs de façon générale aux États-Unis. Donc, on voit déjà la possibilité de controverse, mais il y a aussi cette présence nouvelle de progressistes au sein du Parti démocrate qui ont été élus et qui s'expriment de façon controversée, parfois de façon malhabile, et là, il va s'agir de déterminer si c'est parfois aussi de façon voulue. Et ça peut causer des problèmes au parti, parce que, bon, comme on l'avait déjà mentionné dans un podcast précédent, la grande majorité des Juifs américains votent pour le Parti démocrate, mais jusqu'à quel point des commentaires qui peuvent être perçus comme étant blessants pour les Juifs américains peuvent être tolérés. Et c'est cette situation-là qu'on va pouvoir voir au cours des prochains mois, mais peut-être aussi dès cette semaine, puisque c'est la rencontre annuelle de l'AIPAC, le super lobby pro-Israël qui a été ciblé par Ilhan Omar elle-même. De façon historique, les candidats à la présidence des deux partis ont toujours tenu à se présenter et à discourir devant les membres de ce groupe de pression. Je ne connais pas les programmes ou l'horaire de chacun des candidats démocrates cette semaine, mais il va être intéressant de voir qui va être là et qu'est-ce qu'ils vont dire.
Alors on passe au chiffre de la semaine, 47. C'est le nombre de mois que Paul Manafort va passer en prison. L'ancien directeur de campagne de Donald Trump a été condamné par un tribunal fédéral de Virginie pour fraude fiscale et bancaire en lien avec ses activités de conseil auprès de l'ancien président ukrainien Viktor Yanukovych. 47 mois, ça fait un peu moins de 4 ans, si j'ai bien calculé. Finalement, c'est une peine assez légère pour Paul Manafort qui encourait une sanction beaucoup plus lourde.
Oui, on pouvait penser qu'il se rapprocherait, le juge, de ce qu'on avait souhaité du côté des procureurs. C'est-à-dire entre 19 et 25 ans d'emprisonnement. Alors, on est très loin du compte. Ce qu'il faut rappeler, c'est que ce juge-là, T.S. Ellis, avait manifesté une hostilité évidente à l'égard de l'équipe des procureurs de Robert Mueller dès le début du procès de Manafort. Dans une sortie qui en avait étonné plusieurs, il avait accusé les procureurs fédéraux de ne pas s'intéresser vraiment à la fraude bancaire qui les amenait devant lui, mais à chercher plutôt des informations susceptibles de mener à l'inculpation ou à la destitution de Donald Trump. Et donc, c'était un commentaire très éditorial qui étonnait parce qu'un juge est censé écouter et non pas commenter ce qui se passe devant lui. Et pendant le procès, il avait aussi apostrophé à quelques reprises les procureurs de l'équipe Mueller, à un point tel que face aux récriminations des procureurs, il avait dû s'excuser de son comportement face au jury. On peut dire que ce juge-là a exprimé son hostilité jusqu'à la fin du procès en donnant cette sentence légère à Paul Manafort. Évidemment, moi, je ne suis pas dans sa tête. On ne peut pas garantir à 100% que c'était la raison pour laquelle il a été aussi tolérant. Certains diront complaisant face à cet homme-là, d'autant plus qu'il a aussi décrit Manafort comme étant un homme qui avait mené une vie irréprochable, exception faite, évidemment, des crimes pour lesquels il était condamné. Et cette façon de le décrire semble faire fi de toute la carrière de cet homme-là, qui est un peu l'incarnation de la corruption comme on la connaît à Washington.
Et juste un mot sur Paul Manafort, il n'a pas fini complètement avec la justice, il pourrait être condamné dans d'autres affaires, hein, c'est ça?
Oui, donc il y a cette semaine, en fait, un autre juge fédéral, mais cette fois-ci à Washington, qui va annoncer la peine que doit subir ou que doit purger Paul Manafort dans un autre procès qui concerne plutôt ses activités de lobbyiste. Et il a été reconnu coupable sous deux chefs d'accusation. Chacun de ces chefs d'accusation est passible d'une peine maximale de 5 ans.
On va finir avec la question de la semaine qui nous a été posée sur notre adresse mail l'Amérique dans tous ses états 2019@gmail.com. Vous pouvez nous envoyer chaque semaine vos questions pour qu'on y réponde dans ce podcast. C'est donc une question posée par Fernand Laferrière qui demande s'il est vrai qu'un président des États-Unis qui commet un crime preuve à l'appui est à l'abri de toute poursuite tant qu'il demeure président. Alors Richard, est-ce que c'est vrai ou pas?
La réponse courte, c'est non, car aucun document découlant de la Constitution américaine ne dit noir sur blanc qu'un président est à l'abri de poursuites aux criminels. Cependant, il existe au sein du département de la justice une directive qui décourage les procureurs de porter ou d'inculper un président en fonction. Jusqu'à maintenant, cette directive a toujours été respectée et par exemple, dans le cas de Donald Trump, on n'a pas d'indication qu'il en sera autrement. Cependant, la directive tient compte du fait que le Congrès peut châtier le président qui se retrouve dans une situation soit d'avoir commis un crime ou d'avoir agi de façon douteuse. Et cette façon, évidemment, c'est la procédure de destitution. Et c'est là où les élus peuvent sortir un président qu'on juge coupable de faute ou de crime de la Maison-Blanche. Et une fois qu'il est sorti de la Maison-Blanche, et bien sûr, il devient, comme tout le monde, sujet aux lois du citoyen normal et donc il peut être inculpé. Qu'est-ce qui va se passer avec Donald Trump? S'il est réélu en 2020, il est possible que pendant une autre période de temps, peut-être 4 ans, il sera de nouveau à l'abri de toute poursuite. Cela dit, s'il est sorti de la Maison-Blanche avant la fin de son mandat ou après un mandat, ben là, oui, il peut craindre d'être poursuivi au criminel.
Eh bien voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre podcast sur iTunes, sur Spotify ou sur Google Play, les différentes plateformes de diffusion. On vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et on vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, stay tuned, restez branchés.